Bienvenue à tous. Nous en sommes, je crois, à la 9e causerie. Je ne sais pas combien il va y en avoir par la suite, mais en tout cas, les sujets sont abondants et nous devrions continuer à la fois pour comprendre l'islam ancien, mais toujours à rapporter, comme je l'ai fait, aux situations contemporaine d'aujourd'hui pour voir ce qui se passe aujourd'hui et comment aujourd'hui les musulmans réfèrent à ce passé lointain, comment ils le lisent et comment ils l'interprètent. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter un autre concept, un autre terme qui est très connu dans l'histoire de l'islam et qui est le terme mihna. Nous avons parlé de la fitna, et nous allons montrer en quoi la mihna est aussi une manifestation très importante dans la vie d'une religion au sein des sociétés, et en quoi la mihna va être différente de la fitna. La mihna, ça veut dire l'épreuve, traverser une épreuve, mihna. Une épreuve, par exemple, les chômeurs traversent une épreuve, c'est une mihna. On est éprouvé par quelque chose contre lequel on ne peut rien, contre lequel il faut lutter. Mais ici, le mot mihna indique une épreuve de type judiciaire à laquelle sont soumis des croyants qui adoptent une attitude réprouvé sur un point du dogme et qui, ce faisant, tombe sous le coup de poursuites judiciaires. La mihna ici réfère à ce qui s'est passé au temps du calife Al-Ma'moun, qui a régné à Bagdad. C'est un des enfants de Harun Rashid, l'autre c'est Al-Amin. Al-Amin ou Al-Ma'moun, deux enfants de Harun Rashid. Al-Amin a succédé à son père de 808 à 813, et Al-Ma'moun a succédé à Al-Amin de 813 à 833. Donc il a régné quand même assez longtemps, et tous les musulmans savent un peu qui est Al-Ma'moun. C'est un des très grands califes de la dynastie abbasside. Mais de la première étape de la dynastie abbasside, parce que la dynastie abbasside a régné de 750 à 1258, ça fait plusieurs siècles, et il y a donc des étapes historiques différentes dans ce long règne de la dynastie abbasside. Et avec Al-Ma'moun, nous sommes à l'apogée de la civilisation en général, et de la pensée islamique aussi. En effet, c'est Al-Ma'moun qui crée à Bagdad la fameuse Dar al-Hikma, c'est-à-dire la maison, non pas de la sagesse, mais la maison de la connaissance à la fois philosophique et scientifique. Le mot Hikma est employé pour désigner la philosophie, en tant que la philosophie enseigne une attitude de sagesse vis-à-vis des rapports des hommes entre eux, et aussi de sagesse vis-à-vis de la connaissance, car la connaissance doit être traitée avec toute la patience et la lenteur réflexive de la raison. Mais le mot hikma est employé aussi en ce temps-là en arabe pour protéger la pratique de la philosophie proprement dite, la philosophie qui s'appelle felsafa. Felsafa, c'est la transcription du mot grec philosophia. Et comme la philosophie a donné lieu à un rejet, à des attaques de la part des théologiens et des fuqa qui contrôlent l'orthodoxie, toujours cette orthodoxie qui reflète l'islam officiel ou l'islam d'une majorité par rapport à une minorité. Donc pour protéger la pratique de la philosophie, on la nomme Hikma pour lui donner une sorte sorte de passeport social et une sorte de passeport religieux, parce que le mot « hikmah » désigne quelque chose qui est accepté couramment par les musulmans. C'est les sages, ce sont ceux qui connaissent, ce sont ceux qui jouent dans la société des rôles de médiateurs quand il y a des conflits, parce qu'ils connaissent la mémoire ancienne des anciens et qu'ils peuvent par conséquent apaiser toutes sortes de conflits entre les hommes. Dar al-Hikmah était un lieu qui fonctionnait un peu comme notre CNRS en France, le Centre National de la Recherche Scientifique, parce qu'il y avait toutes sortes de savants qui se regroupaient là, qui trouvaient des moyens de travail, grandes bibliothèques par exemple, où on pouvait trouver tous les ouvrages de la science grecque, de la philosophie grecque, mais aussi les ouvrages écrits déjà en arabe par des philosophes arabes, mais aussi tous les ouvrages concernant les sciences religieuses, le ulum diniya, qui sont déjà produits et qui circulent. C'est une maison donc ouverte à tous les types de la connaissance. Ça, c'est extrêmement important de savoir qu'à Bagdad, il y avait un chef de la cité musulmane, ouvert intellectuellement, ouvert culturellement, pour concevoir l'idée de fonder une institution uniquement pour accueillir les savants et donner aux savants toutes les facilités, non seulement pour étudier pour eux-mêmes, mais pour se rencontrer entre eux, échanger, discuter et ainsi faire avancer toutes les disciplines de la connaissance. C'est un peu comme François Ier. François Ier aussi, c'est lui qui a fondé ce que nous appelons en France le Collège de France, sur les conseils de Guillaume Budé, depuis 1529. Donc il y a ainsi des dirigeants politiques, un roi, un calife, qui ont une inspiration large, une vision de l'esprit humain pour l'aider, le promouvoir plus haut et lui donner les moyens d'enrichir et d'émanciper la condition humaine. Alors, parmi les courants de pensée et de recherche qui coexistaient et discutaient entre eux et échangeaient entre eux, il y avait le fameux courant de la pensée théologique musulmane qu'on appelle Al-Mu'tazila. C'est un courant qui est parti de Basra, un des premiers centres urbains où a vécu le grand écrivain et penseur, je dirais, parce qu'il est à la fois philosophe, théologien, il connaissait tout à la manière des gens de ce temps-là. C'est ce qu'on appelait l'adab. L'adab, c'est la connaissance. C'est comme au temps de Guillaume Budé, justement, en France, au XVIe siècle, il fallait tout connaître. Pic de la Mirandole aussi, autrefois, on faisait le tour de toutes les connaissances de son temps. Et donc, ce mouvement mu'tazilite a bénéficié de l'effervescence intellectuelle qui existait déjà à Basra, et beaucoup d'entre eux sont remontés à Bagdad, comme des Français de province montent à Paris. Eh bien, les musulmans de Bagdad, de Koufa, de Médine, du Caire, ou de Raï ou d'Isfahan montaient à Bagdad. Nous allons faire une petite pause, toujours musicale, avec Walid Rumia, Hiwar Habibayn. Reprenons donc notre causerie après cet intermède qui, j'espère, vous a plu, comme les fois précédentes. Je reprends donc pour indiquer que cet écrivain dont j'ai parlé se nomme Al-Jahir, c'est un des grands noms de la pensée arabe et islamique, et il faisait partie de ce grand mouvement d'intellectuels que l'on appelle les Mu'tazilites. Et c'est à cause de ce mouvement Mu'tazilite que nous allons avoir cette épreuve, la mihna, qui va être déclenchée sous Al-Ma'moun et sous son successeur Al-Wathiq à cause d'une thèse dont je crois j'ai déjà mentionné le nom dans une précédente causerie. C'est la thèse du Coran créé par opposition au Coran incréé. Cette thèse a été soutenue par les Mu'tazilites pour introduire une différence entre la parole de Dieu, qui est infinie comme Dieu lui-même, qui donc ne peut être épuisée par les fragments que Dieu communique aux hommes dans ce que nous appelons la révélation. Les révélations successives faites par Dieu à travers les prophètes n'épuisent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire une distinction entre la parole de Dieu transcendante, infinie, éternelle, comme Dieu lui-même, et les fragments de cette parole communiquée aux hommes à travers les prophètes, et que les hommes ont entendu quelque part sur la terre, en Palestine ou à Médine, et qu'ils ont entendu dans des langues humaines. L'hébreu, l'ancien hébreu, l'araméen, langue sémitique, ou l'arabe pour le Coran. Du fait donc qu'il y a inscription sur terre parmi les hommes en chair et en os de la parole de Dieu, cette part qui nous atteint en tant qu'hommes vivants sur terre, les Mu'tazilites disent que c'est la part créée, advenue à un moment donné de l'histoire, ce qui ne préjuge en rien du caractère incréé de la parole de Dieu, qui, comme je l'ai dit, est infini. Voilà, c'est difficile à comprendre, mais j'espère avoir été assez clair pour bien montrer la différence que les Mu'tazilites ont essayé d'introduire pour justement enrichir les débats entre les exégètes, mais aussi entre les théologiens et les juristes, le fuqaha, qui élabore la charia, la loi musulmane. Car si nous acceptons la thèse Mu'tazilite, nous pouvons parfaitement discuter la manière dont les différents versets qui composent le mushaf, que j'appelle le corpus officiel clos, je l'ai déjà expliqué, eh bien, on peut essayer de discuter comment tel verset sur lequel on rapporte différentes lectures, comme je l'ai indiqué aussi déjà pour le verset 12 de la sourate 4, sourate Nisa. Wa in kana rajulun yurathu ou yurithu. On peut discuter sur la façon dont ce verset a été transmis à celui qui était chargé de le transcrire lors de la constitution du mushaf, puisqu'il s'agit de la partie humaine, de la manipulation de la partie révélée de la parole de Dieu, qui est tombée dans nos mains maintenant et sous notre responsabilité. C'est ça, c'est grandiose de penser ça. Ça ouvre énormément de portes pour l'exégèse en particulier. Et ça enrichit considérablement l'intelligence, non seulement du texte coranique, mais l'intelligence des autres textes pour les chrétiens et pour les juifs. C'est une théorie générale, comme on dirait en termes modernes, sur la parole de Dieu d'une part et sur la partie matérielle, physique, qui est inscrite dans un livre physique que, dont je tourne les pages, qu'un scribe a écrit sur les pages, cette parole de Dieu, tout cela, n'est-ce pas, est un autre porté. Et tout cela, par conséquent, tombe dans ce que les historiens appellent l'historicité, c'est-à-dire le caractère historique de quelque chose qui est arrivé à une date précise dans l'histoire, dans un endroit précis de la géographie de la Terre, et avec des acteurs qui ont un nom, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, et beaucoup d'autres sahaba, tout cela fait partie de nos discussions et de nos efforts pour entrer dans la parole de Dieu, avoir une idée de la parole de Dieu, mais à travers ce qui nous est donné. Sans ce qui nous est donné ainsi, nous ne pouvons pas avoir accès à la parole de Dieu. Et autour de cette thèse du Coran créé et incréé, a été déclenchée la mihna, c'est-à-dire l'épreuve. L'épreuve par laquelle le pouvoir califal, donc Al-Ma'moun est responsable aussi de ça, il a soumis un certain nombre de musulmans à l'épreuve de reconnaître cette théorie ou bien d'être déclaré justement non orthodoxe, ce qui évidemment est en contradiction avec cette ouverture humaniste dont j'ai parlé à propos de Mahmoud et concerne justement la philosophie. Il y a ici quelque chose de très important sur lequel je reviendrai parce que je tiens aussi à ce que tous vous compreniez le sens de cet épisode. Je le cite comme exemple important toujours pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le fait que cette théorie ait été entièrement effacée de la pensée islamique après le XIe siècle a eu des conséquences sur l'exercice de l'exégèse sur le texte coranique et sur la pensée islamique d'une façon générale. À la prochaine fois. Bienvenue à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette 10e causerie. Dans notre précédent entretien, je vous avais parlé de la mihna, c'est-à-dire de l'inquisition engagée sous le calife Al-Ma'moun pour imposer aux musulmans l'acceptation de la théorie défendue par le mouvement de pensée théologique Mu'tazilite, qui est un mouvement très important et connu, dont je vous ai déjà parlé. Et il y a eu une tension entre les musulmans à Bagdad, puisqu'il y a eu une fraction importante des musulmans, ceux qui ne pouvaient pas accéder aux discussions abstraites au sujet du statut du Coran comme parole de Dieu, considérée comme créée ou incréée. Et justement, à propos de ces deux mots, créer ou incréer, je crains qu'il n'y ait des malentendus chez les auditeurs, puisque il m'est parvenu que certains ont compris par créer et incréer que le Coran est une création des hommes, pour ceux qui soutiennent que c'est un Coran créé, tandis que le Coran est incréé et donc appartient à Dieu et est lié à l'existence même de Dieu. Et c'est la position que vont défendre les musulmans sunnites orthodoxes, surtout conduits par l'école hanbalite, comme nous l'avons vu. Alors, je reviens sur créer et incréer. J'ai expliqué que la parole de Dieu est éternelle comme Dieu lui-même. Et donc, cette parole ne fait pas l'objet d'une création de la part de Dieu, puisqu'elle existe de toute éternité, de même que Dieu ne crée pas Dieu lui-même. Donc, c'est un statut religieux, spirituel, qui appartient à la parole de Dieu qui est dans les cieux, et cette parole de Dieu, comme il est dit dans le Coran, ne peut pas être épuisée par les révélations successives qui ont été faites aux prophètes, reconnus par l'islam, et même le Coran, il apporte évidemment des choses nouvelles dans l'ordre de la révélation, mais ce qui est dit dans le Coran n'épuise pas toute la parole de Dieu, car cela signifierait que nous posséderions la même connaissance que Dieu lui-même si elle était épuisée. C'est pour cela que les Mu'tazilites disent que la parole de Dieu est inépuisable. Elle est aussi infinie que Dieu lui-même. Elle ne saurait donc être considérée comme créée. Mais ce qui a été révélé à travers Moïse, ce qui a été révélé à travers Jésus, ce qui a été révélé à travers le prophète Mohammed, tout cela, ce sont des fragments de la parole de Dieu, qui, je le répète, elle, est incréée et infinie. Et cette partie-là de la parole de Dieu, que Dieu a bien voulu transmettre aux hommes par l'intermédiaire des prophètes, reconnus par l'islam, cette partie-là fait l'objet d'une création sur terre, comme Dieu nous a créés sur terre. Et cette partie est créée parce que, d'abord, elle s'exprime dans la langue arabe, comme elle s'est exprimée dans la langue hébraïque, comme elle s'est exprimée dans la langue araméenne avec Jésus. Or, ces langues, ce sont des langues parlées par des hommes dans leur histoire terrestre. Donc c'est cette partie-là qui est considérée par les Mu'tazilites comme la partie créée de la parole éternelle de Dieu. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de malentendu et que l'on ne va pas dire que les Mu'tazilites ont soutenu que le Coran est une création humaine. Ce serait abominable. C'est un malentendu très grave. Et c'est parce que, justement, les musulmans ne maîtrisent pas le langage des théologiens. Ils ne sont pas habitués à cette distinction très fine qui reconnaît les attributs de la parole de Dieu éternel d'un côté et les attributs d'une parole de Dieu, d'un fragment de parole de Dieu qui vient s'inscrire dans l'histoire terrestre des hommes. Et il s'exprime dans une langue parlée par les hommes sur terre. Et en plus, cette parole énoncée oralement par les prophètes va faire l'objet d'une deuxième forme de création. Lorsqu'on va la mettre par écrit sur du papier ou du parchemin pour faire des volumes qu'on appelle la Bible, qu'on appelle les évangiles, qu'on appelle le Coran. Et ça aussi, c'est une incarnation dans un support matériel qui est périssable. Un Coran sur du papier, ou même sur du parchemin, ou même sur de la pierre, est périssable. La pierre peut être détruite, cassée, brisée en morceaux. L'omoplate, on écrivait sur des omoplates, paraît-il, enfin, ce sont des sources qui rapportent cela, ben, elle peut se perdre, elle peut brûler. Et donc, ce sont des supports matériels. Il y a là ce qu'on appelle l'historicité, c'est-à-dire la contingence de tout ce qui existe sur Terre. La contingence, ça veut dire ça existe maintenant et demain, ça peut disparaître pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est cela qu'il faut comprendre. Et c'est là que se situe le débat entre la partie, je le répète, qui va devenir à la portée des hommes qui vont écrire, effacer, réécrire, répéter, réciter. Et tout cela, ce sont des actes qui sont dus aux hommes durant leur vie terrestre. Et ça, ça fait partie de l'histoire des hommes sur Terre. Et donc, les Écritures saintes, fragments de la parole de Dieu éternel, sont soumis aux normes, aux règles générales de l'histoire des hommes, en ce sens que ils peuvent subir toutes sortes de manipulations de la part des hommes. Et effectivement, lorsque les commentateurs du Coran donnent des interprétations des versets coraniques, nous savons très bien qu'il y a des divergences entre ces interprétations. Ça fait partie de l'intervention des hommes sur la partie créée de la parole de Dieu. Voilà, j'espère que cette fois-ci, c'est clair. Alors, le deuxième point qui est important, ce sont les conséquences de la bataille entre une fraction des musulmans, avec les Hanafites par exemple, qui étaient d'accord avec les Mu'tazilites pour dire qu'il y a cette partie créée de la parole de Dieu, et ceux qui ne voulaient pas accepter cette théorie de la partie créée et qui disent que la totalité de la parole de Dieu, même celle qui est inscrite dans le Coran, a pour attribut l'éternité. Donc, l'impossibilité de la considérer comme créée. Alors, je répète que le calife al-Ma'moun et al-Wathir, son successeur, ont défendu la thèse des Mu'tazilites du Coran créé, par opposition au Coran créé, et qu'ils ont voulu l'imposer en usant de leur pouvoir politique pour contraindre les musulmans à adopter, enseigner la théorie du Coran créé, avec toutes ses conséquences. C'est l'objet de la mehna dont nous avons parlé. Et le deuxième épisode important dont il faut parler aujourd'hui, après avoir réexpliqué, j'espère clairement, ce dont il s'agit et les enjeux de la bataille, c'est le calife Al-Qadir qui arrive au pouvoir au début du XIe siècle et qui, en 1017, intervient publiquement pour dire que les Hanafites doivent prononcer la Tawba, c'est-à-dire ils doivent revenir à Dieu. Revenir à Dieu veut dire accepter la théorie du Coran incréée, appliquée même au mushaf du Coran que nous tenons entre les mains et que nous lisons. C'est le rejet total, donc, de la théorie mu'tazilite. Alors, le problème ici, c'est que nous avons des califes qui interviennent dans un débat théologique. Et ceci pose un problème de compétence du calife. Est-ce que le calife est compétent pour trancher un problème qui relève de l'autorité des ulama mujtahidoun seulement? Voilà le problème. Eh bien, Ibn Hanbal, qui conduisait l'opposition à Bagdad au moment de la mihna instaurée par le calife al-Ma'moun, Ibn Hanbal a dit exactement ceci dans une formule qui est connue, qui est rapportée par les sources anciennes: la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, c'est-à-dire que les croyants ne sont pas tenus à l'obéissance à un makhluq, une créature de Dieu. Le calife est une créature de Dieu, c'est un homme comme les autres hommes. Il a simplement la charge politique d'appliquer et non pas d'énoncer la charia. C'est donc le partage des pouvoirs. Il y a le pouvoir spirituel de la lecture et de l'interprétation du Coran qui appartient exclusivement à l'instance des ulama mujtahidoun, c'est-à-dire des ulama qui ont subi les examens nécessaires, comme un professeur aujourd'hui subit des examens avant de devenir professeur à l'université. Il faut qu'il soutienne une thèse de doctorat devant 5 à 6 professeurs déjà en place pour que ces professeurs jugent s'il a les compétences intellectuelles et scientifiques nécessaires pour devenir un professeur. De la même façon, on ne peut pas faire partie du groupe des ulama mujtahidoun si on n'est pas reconnu par les ulama déjà habilités à exercer cette fonction spirituelle, religieuse. C'est pour cela que j'insiste sur cet épisode important qui touche au cœur même de la pensée islamique. Car si le calife, légitimé dans la bay'a par justement l'instance des ulamas qui viennent faire allégeance politique au calife au moment de son accès au pouvoir califal, eh bien, la légitimité du calife va dépendre toujours de l'instance des ulamas mujtahidoun qui contrôle l'exercice de cette légitimité. Alors, pour diversifier notre culture religieuse, nous allons écouter passage de Jean-Sébastien Bach, si possible, la messe par Jean-Sébastien Bach. J'espère que ce morceau de musique, inhabituel peut-être à Radio Orient, va vous inspirer d'écouter davantage ce que l'on appelle la musique sacrée. Et nous savons qu'à Fès, il y a un festival de musique sacrée qui est dirigé par notre ami Fawzi Skalli, qui a beaucoup de succès, parce que dans ce festival de musique sacrée, il y a des musiques qui traduisent la spiritualité de plusieurs religions. Et là, il y a un terrain commun d'expression de la spiritualité entre les religions, et nous sommes en un temps où nous avons besoin de ces ouvertures. C'est pour cela que, comme je vous l'ai dit, je crois, je diversifie mon choix des morceaux qui viennent ponctuer nos exposés, et je choisis à dessein, donc, des morceaux de musique appartenant au christianisme et à l'Europe. Et c'est un acte éducatif délibéré de ma part. Je reviens donc à mon point au sujet de l'intervention du calife Al-Qadir qui oblige les partisans du Coran créé à renoncer cette fois-ci sous peine de poursuite, sous peine de procès et sous peine même d'exécution d'amuhu halal, dit la aqida al-qadiriya. Man qala bi khalqi al-Qur'an fa damuhu halal. Ça va très loin dans l'intervention d'un chef politique de la cité musulmane. Alors que, je le répète, du point de vue de la théologie stricte, il n'a pas le droit de faire cette intervention. J'ajoute que chez les chiites, Ithna Ashari, les chiites d'Iran actuels ou du Liban Sud, ou partout où il y a des chiites en Irak, la théorie justement de la légitimité pour l'imam d'intervenir dans un débat théologique comme celui du Coran créé ou incréé, ne se pose pas tout à fait de la même façon que chez les sunnites. Je viens de dire que le calife n'a pas le pouvoir d'intervenir devant le corps des ulama mujtahidoun sur une question de théologie. Pour les chiites, l'imam est considéré comme infaillible. Il est ma'soum dans ses enseignements. Donc pour les chiites musulmans, l'imam est habilité à intervenir dans des débats de fond sur une question aussi importante que le statut créé ou incréé du corps. Alors nous voyons ici une conception différente sur la séparation de l'instance religieuse, de l'autorité religieuse, et de l'instance du pouvoir politique. En arabe, il y a une différence dans les mots. On dit le hukm, la hukma illa lillah, par exemple, la hukma fi, je parle en arabe, je traduis en français, c'est-à-dire que l'exercice de l'autorité, un jugement d'autorité, ne peut venir que de Dieu et de ceux qui sont habilités à interpréter la parole de Dieu. Ceci pour les sunnites. Mais pour les chiites, l'imam a un charisme spirituel hérité du prophète Mohammed par l'intermédiaire de Ali ibn Abi Talib et des imams qui descendent de la famille du prophète par Ali ibn Abi Talib et Fatima. Le calife hérite du charisme du prophète et du fait de cet héritage du charisme du prophète, il est considéré par les chiites comme infaillible. Prononcer tranché une question comme celle dont nous parlons. Alors que chez les sunnites, c'est un groupe de ulama mujtahidoun qui s'élisent entre eux pour accéder à ce niveau d'autorité religieuse. Ce sont ces ulama seuls qui peuvent trancher la question. Donc, ce qu'a fait le Ma'moun, comme ce qu'a fait le Qadir, défendant des positions différentes, du point de vue de la théologie, n'est pas légitime. Mais le résultat final de cette intervention d'Al-Qadir, c'est que la théorie du Coran créé va disparaître du champ théologique, du champ intellectuel et des débats théologiques entre les ulama musulmans. Et bien entendu aussi, chez les chiites, il ne va plus en être question. Autrement dit, nous avons là une discussion très riche, très féconde du point de vue de ses conséquences sur la possibilité pour les exégètes du Coran de discuter entre eux l'interprétation des versets en les insérant dans l'histoire terrestre des hommes, c'est-à-dire en considérant les versets certes comme l'expression de la parole de Dieu, ça n'est pas nié, mais c'est une expression qui entre dans l'histoire, qui travaille dans l'histoire et qui est soumise à l'intervention des hommes dans l'histoire. Alors, je pense que la pensée islamique a perdu beaucoup dans cet échec et dans cette interruption brutale par une intervention politique d'un débat qui, je le répète, aujourd'hui apparaît comme un débat nécessaire pour tous les musulmans. Et c'est pour cela que j'ai insisté sur ce point-là, car je vous avais dit dès le début de nos causeries que c'est l'objet de ce que j'ai appelé l'islamologie appliquée. Nous voyons aujourd'hui les musulmans se disputer sur l'interprétation du Coran et des versets importants du Coran, sur l'autorité religieuse et le pouvoir politique. Qui doit exercer l'autorité religieuse et qui doit exercer le pouvoir politique et quel est le rapport qui doit être reconnu entre les deux. Ces problèmes-là sont posés d'une façon très vive qui conduit à des batailles et même à des guerres civiles aujourd'hui. Et dans cette bataille, nous constatons que les riches débats, riches intellectuellement, riches culturellement, qui ont été mis par écrit dans toute une littérature, eh bien, cette littérature, nous ne la lisons pas, nous ne réactivons pas ces débats, et c'est une grande perte intellectuelle pour la pensée islamique d'hier et d'aujourd'hui. À la prochaine fois. Bienvenue à tous Dans cette onzième causerie, j'ai choisi de vous parler d'un grand penseur et d'un grand esprit qui est Ibn Khaldoun. Pourquoi Ibn Khaldoun? Parce qu'Ibn Khaldoun est né en 1332, donc dans le premier tiers du XIVe siècle. Et il est mort en 1406, tout au début du XVe siècle. C'est une époque clé dans l'évolution de la pensée islamique, de la déculture des sociétés musulmanes et aussi de ce que nous appelons la civilisation musulmane. Il y a un avant Ibn Khaldoun et un après Ibn Khaldoun. Donc la date de 1406 est une date repère pour les historiens parce que il s'agit de comprendre pourquoi Ibn Khaldoun, maghrébin, issu d'une famille venue du Hadramaut en Andalousie, et donc une famille noble, de noble ascendance. On a parlé du nasab. Ibn Khaldoun, donc, d'une grande famille noble, va avoir une carrière exemplaire du point de vue des problèmes que la biographie d'Ibn Khaldoun et sa carrière à la fois d'homme politique et de savant, elle soulève des problèmes qui nous font réfléchir sur l'état de la pensée islamique, l'état de la culture islamique, non seulement au Maghreb, mais dans l'ensemble des pays convertis à l'islam et qui sont musulmans, depuis le Maroc jusqu'en Indonésie, et le regard qu'Ibn Khaldoun va porter sur son époque mérite d'être enseigné, et il l'est, heureusement. Mais je ne sais pas si tous les professeurs qui enseignent la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire son œuvre maîtresse, la Muqaddima veut dire l'introduction, une sorte de longue préface qu'Ibn Khaldoun a écrite pour présenter son grand livre d'histoire qui est intitulé Kitab al-Ibar fi tarikh al-Barbar. Le mot Ibar en arabe, ça n'est pas seulement un exemple que l'on donne aux hommes pour l'imiter parce que c'est le bon exemple. Le mot Ibar, c'est une réflexion sur la conduite des affaires politiques dans la cité. Et ce sont les conclusions que la réflexion sur ces conduites de ceux qui gouvernent la cité, les responsabilités exercées par les califes, les émirs, les sultans, ceux qui ont la charge du pouvoir, eh bien, il y a des leçons à tirer de ces conduites pour être méditées et, si possible, pour ne pas répéter des erreurs évidentes, des échecs très dommageables pour les sociétés, pour la culture. Et donc, Ibn Khaldoun a en vue une réflexion critique sur l'histoire de ceux qu'il appelle al-barbar. Nous constatons qu'au XIVe siècle, un grand écrivain maghrébin, un grand savant maghrébin, qui ouvre les yeux sur les sociétés maghrébines, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc actuel, ces pays que nous nommons actuellement avec des frontières politiques en ce temps-là, c'était al-Maghrib. Al-Maghrib divisé en Ifriqiya, ce qu'on appelait l'Ifriqiya, c'est une unité politique qui comprenait la Libye, la Tunisie, jusqu'à Constantine en Algérie, donc il y a une partie de l'Algérie, c'est un grand morceau du Maghreb, et puis Al-Maghrib al-Awsat, c'est-à-dire le Maghreb central, qui est l'Algérie actuelle, jusqu'à Tlemcen, et la frontière entre le Maroc actuel et l'Algérie, et puis le Maghrib al-Aqsa, c'est-à-dire le Maghreb extrême. Et ces divisions sont reflétées politiquement au temps d'Ibn Khaldoun par les dynasties qui régnaient à Tunis, où nous avons la dynastie des Hafsides, à Tlemcen, où nous avons la famille des Abdelwadid, qui exerçait le pouvoir à Tlemcen, et puis à Fès, avec la dynastie des Mérinides. Donc nous avons là une sorte de carte qui représente déjà ce que va devenir cet espace maghrébin, avec les Turcs, quand ils vont occuper la Libye, l'Algérie et la Tunisie, tandis que le Maroc, sous les Ottomans, reste autonome, il reste marocain, il n'est pas occupé par les Ottomans, et ceci est important à retenir pour la suite justement de l'histoire du Maghreb. Mais au temps d'Ibn Khaldoun, nous allons apprendre beaucoup de choses de l'analyse qu'il fait des modes d'exercice du pouvoir par les dynasties que je viens de nommer, car il va analyser les mécanismes de conquête du pouvoir par chaque dynastie et les mécanismes qui conduisent chaque dynastie à être remplacée par une nouvelle dynastie après trois générations. Voilà, il a élaboré cette théorie en observant l'exemple des Almoravides, l'exemple des Almohades, l'exemple des Mérinides au Maroc, l'exemple de beaucoup d'autres dynasties, comme les Banu Hammad, comme les Abdelwadides, comme les Zirides, comme il y en a plusieurs, et de son temps les Hafsides. Effectivement, au bout de trois générations, à peu près, disons, une centaine d'années, la dynastie qui arrive au pouvoir au début est très forte parce que, dit-il, les chefs qui ont conduit une famille au pouvoir sont liés par une forte solidarité sociale qu'il appelle la asabia. Donc, pendant la première génération, cette solidarité va opérer et donner beaucoup d'efficacité à l'exercice du pouvoir politique. La deuxième génération, il va y avoir des disputes entre les enfants, la descendance du sultan, du fait de la structure de la famille en islam, du fait de la possibilité pour un musulman d'épouser plusieurs femmes, et au-delà des femmes légitimes, il peut avoir plusieurs concubines. Par conséquent, nous allons avoir une descendance étendue, mais cela n'est pas terminé, nous le voyons encore aujourd'hui, pas au même degré, où cela se passait dans les dynasties musulmanes en Proche-Orient comme au Maghreb. Et donc, la deuxième génération va voir s'instaurer un affaiblissement progressif du pouvoir central du fait des disputes pour la succession, disputes entre les héritiers. Et la troisième génération, les choses empirent, la multiplicité des prétendants au pouvoir augmente encore, et donc la dynastie perd les moyens de contrôle du pouvoir, et il y a une autre famille qui va venir, comme par exemple le mouvement Al-Mouahidoun, qui vient du sud marocain et qui vont remplacer la dynastie Almoravide antérieure. Et évidemment, il y a des disputes d'ordre religieux, c'est pour ça qu'on dit Al-Mouahidoun, ceux qui professent l'unicité de Dieu. Ça, c'est pour dire que les Almoravides ont failli à l'orthodoxie musulmane, n'ont pas respecté les exigences de l'unicité de Dieu telle qu'elle est enseignée toujours par la théologie orthodoxe. Ils vont donc utiliser des arguments de type religieux pour conquérir une légitimité politique et éliminer les prédécesseurs dans le pouvoir. Nous explique Ibn Khaldoun, je parle au nom d'Ibn Khaldoun, j'essaye de résumer les enseignements d'Ibn Khaldoun dans sa grande Muqaddima que l'on traduit en français par le mot savant, les prolégomènes. Les prolégomènes, c'est un gros livre que l'on met à la tête d'un autre livre pour introduire à une intelligence critique de tout ce qui va être dit dans le livre qui est ainsi précédé par une sorte de théorie de la société, de théorie du pouvoir politique, pour que on ne se contente pas de rapporter les événements les uns après les autres et ne rien comprendre aux mécanismes profonds qui commandent ces événements politiques dans la société. Nous allons faire une petite pause, toujours musicale comme d'habitude, en choisissant cette fois un morceau de Nassr Riwan. Puisque nous sommes au Maroc, on vient de parler d'Ibn Khaldoun. Nassr Riwan nous ont replongé dans la culture marocaine et au-delà du Maroc, dans la culture maghrébine, avec ses racines berbères, comme dirait Ibn Khaldoun, puisque Ibn Khaldoun avait sous les yeux les expressions diverses de la culture berbère et de la société berbère, car en ce temps-là, l'arabe, évidemment, était répandu, mais il était surtout répandu dans les villes. Voilà pourquoi Ibn Khaldoun fait là aussi une distinction très nette entre ce qu'il appelle la vie sédentaire, les sédentaires, c'est-à-dire les citadins, le hadara, et puis la vie nomade, la vie des Arabes nomades, mais aussi des Berbères nomades. Et les Arabes, ils les appellent, comme le Coran, l'Arabe, ou bien l'Bedou. Et là aussi, Ibn Khaldoun nous ouvre les yeux, comme j'ai essayé de le faire déjà quand je vous ai parlé de Al-Fitna al-Kubra. Je vous ai expliqué que les batailles entre Ali et Muawiya au sujet de la succession au poste de calife, cette bataille qui nous est décrite comme une bataille avec des enjeux religieux, de légitimité religieuse, en réalité, au-dessous de tous les arguments religieux qui s'échangeaient, il y avait les forces de la Asabiya, les forces des clans et des tribus et des familles patriarcales qui agissaient pour aller à la conquête du pouvoir et éliminer les concurrents pour cette course au pouvoir. J'ajoute qu'Ibn Khaldoun avait une double ambition au courant de toute sa vie. Il avait une ambition politique. Il voulait participer à l'exercice du pouvoir dans l'espoir sans doute de mettre en application ses connaissances au sujet des structures tribales, claniques de la société maghrébine et d'essayer de dépasser les luttes fondées sur la solidarité clanique, la Asabiya, pour appliquer ce qui, à ses yeux, représentait le pouvoir islamique idéal. Car il a une théorie du pouvoir politique. Et cette théorie est fondée sur la distinction entre le mulk, c'est-à-dire la royauté, l'exercice du pouvoir par un roi, qui ne respecte pas nécessairement les règles de la charia, du droit musulman, du droit civil musulman et du droit politique, je n'ose pas dire constitutionnel, parce que ce serait un anachronisme, puisqu'en ce temps-là, on ne parle pas de constitution, mais on parlait de sharia qui est contraignante pour l'exercice du pouvoir, comme je l'ai expliqué, pour les califes et pour les imams du côté chiite. Donc Ibn Khaldoun avait des ambitions de dépasser le pouvoir lié aux forces tribales, aux forces des familles patriarcales, pour appliquer ce que Ibn Taymiyyah, penseur hanbalite que nous connaissons, a appelé « siyasa shar'iyya », c'est-à-dire la politique ou la gouvernance légitime, légitime au sens de la charia. De même que lorsque Khomeini est arrivé au pouvoir, il a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Wilayat al-Faqih ». Nous voyons donc, je cite exprès, je saute exprès, de Ibn Khaldoun, Ibn Taymiyyah à Khomeini, qui est proche de nous, qui a pris le pouvoir, nous savons comment ça s'est passé, et ça continue d'ailleurs à se passer en Iran. La constitution iranienne mise en place au temps de Khomeini continue de commander le pouvoir politique en Iran, et ce pouvoir politique est fondé sur les arguments définis par Khomeini dans son petit ouvrage « Wilayat al-Faqih », c'est-à-dire la gouvernance par le clerc. Le clerc, c'est-à-dire celui qui connaît bien la charia et qui est en mesure, parce qu'il la connaît bien, il est en mesure de l'appliquer politiquement. Al-Faqih, c'est donc le connaisseur de la charia et l'interprète de la charia qui vient au pouvoir et veut appliquer cette charia. Alors, il y a une grande distance, je m'empresse de le dire, entre ce que Khomeini a écrit dans son livre et la théorie du pouvoir telle que nous la connaissons, telle que nous la connaissons chez les chiites imamiens. Chiite imamien au temps de l'islam classique et de la pensée classique. Donc l'ambition politique d'Ibn Khaldoun est inséparable de son attachement et de son ambition ô combien légitime de savant qui veut connaître et mettre en application ce qu'il connaît de façon scientifique. C'est une personnalité extrêmement riche par conséquent, qui mérite d'être étudiée aujourd'hui, d'être interrogée, parce qu'elle nous remet sous les yeux la réalité des ressorts sociologiques, anthropologiques, politiques, économiques, qui commandaient la vie des sociétés maghrébines. Mais à travers les sociétés maghrébines, nous pouvons aussi appliquer les analyses d'Ibn Khaldoun et les critiques qu'Ibn Khaldoun fait du fonctionnement du pouvoir par rapport au fonctionnement idéal de la gouvernance islamique tel qu'il la définissait avec le régime du califat. Eh bien, tout cela nous permet de revenir à l'actualité et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Ibn Khaldoun, en tant qu'acteur de l'histoire, acteur politique et acteur intellectuel, l'acteur du docteur en termes de connaissances religieuses de la charia, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis le XIVe siècle, où il a fait tout cela, jusqu'à nos jours, et que sont devenues ces théories qu'il a développées aujourd'hui dans les sociétés qui continuent de se présenter comme des sociétés musulmanes. Ibn Khaldoun a exercé, touché, disons, au pouvoir dans la cour des Hafsides à Tunis, dans la cour des Abdelwadid à Tlemcen, dans la cour des Mérinides d'Aphès et dans la cour de la dynastie des Nasrides à Grenade, où il a fait connaissance avec un grand vizir, écrivain, homme de lettres, d'un grand savoir, et qui s'appelle Lisan Din ibn al-Khatib, le fameux, le grand aussi, Lisan Din ibn al-Khatib, vizir, mais aussi grand homme de lettres, exactement comme Ibn Khaldun. Ceci veut dire qu'au XIVe siècle, nous sommes en train de vivre à la fois les signes du recul intellectuel et culturel des sociétés musulmanes, et cependant, encore au XIVe siècle, nous constatons qu'il y a des personnalités d'une très grande culture capables de réfléchir et de penser au sens le plus fort les problèmes de leur temps pour proposer des solutions à ces problèmes. Ces deux figures que je viens de nommer, Ibn Khaldun et Lisan Din ibn al-Khatib, qui avaient des relations fortes d'amitié et aussi la relation forte intellectuelle entre eux, montre l'état du monde musulman depuis le Maroc jusqu'en Iran pendant le XIVe siècle. Ibn Khaldun n'a pas eu de chance dans sa vie, en ce sens que malgré ses succès intellectuels et ses succès moins forts, moins évidents sur le plan politique, puisqu'il a toujours été obligé de quitter les fonctions que lui confiaient les responsables politiques des différentes dynasties, parce qu'il n'était pas d'accord avec eux, et parce que aussi il nous décrit avec beaucoup de détails les intrigues et les jalousies qui étaient monnaie courante autour du souverain de toutes les dynasties. Et il a souffert considérablement de ces jalousies et de ces intrigues de gens qu'il considérait à juste titre, parce que lui, quand même, il l'a démontré par ses ouvrages, et ceux qui le jalousaient et faisaient des intrigues contre lui ne nous ont pas laissé de travaux qui puissent nous montrer qu'ils avaient quelques raisons à entrer en rivalité avec lui. Et Ibn Khaldun, je disais, n'a pas eu de chance en ce sens qu'à 16 ans, il avait perdu tous les membres de sa famille, parce que au XIVe siècle, au Maghreb, il y avait une peste qui a ravagé la population du Maghreb. La peste joue un rôle fondamental dans l'évolution des sociétés, parce que en quelques années, la peste décime la population d'un pays, et lorsque la population est décimée, les survivants sont incapables de faire face à tous les problèmes de l'existence, parce qu'ils ont perdu surtout les jeunes qui peuvent travailler et produire. J'introduis cette remarque qui est plus qu'une remarque, car Ibn Khaldun, justement, a bien perçu le rôle des épidémies en général dans les sociétés humaines avant la découverte de notre médecine moderne. Voilà pourquoi les sociétés musulmanes, dans les années 50, 60, 70, ont connu une explosion démographique, parce que la médecine moderne a permis presque à tous les enfants qui naissent de survivre et de vivre, et même longtemps et de plus en plus longtemps. Voilà un paramètre qu'Ibn Khaldun a bien perçu, parce qu'il l'a vécu. Il a perdu sa propre famille et il ne s'en est pas consolé durant toute sa vie. Et puis autour de lui, les luttes qu'il a menées, il les a menées avec toutes sortes d'hostilités qui l'entouraient, aussi bien dans les capitales maghrébines, où donc il a passé 30 ans de sa vie, et ses intrigues, ses jalousies l'ont amené à quitter le Maghreb pour aller émigrer au Caire, en Égypte. Et au Caire, il a eu quelques reconnaissances, il a eu une charge de cadi dans l'école malikite, parce qu'il appartient en tant que maghrébin à l'école malikite, et sa vie s'est poursuivie, donc sa carrière s'est poursuivie au Caire, et il a revu plusieurs fois le texte de son grand œuvre, la Muqaddima, et de son livre sur l'histoire des Berbères, et pour tous ses écrits, nous avons une traduction en français tout à fait remarquable et nouvelle par un collègue savant marocain, Abdeslam Cheddadi, qui a publié cette traduction avec une longue introduction. Et c'est un volume de la Pléiade, et je conseille à tous les auditeurs d'aller lire ce texte. J'aurai encore à vous expliquer dans notre dernière et douzième causerie la suite donnée dans l'histoire de la pensée islamique non seulement à l'œuvre exceptionnelle d'Ibn Khaldoun, mais aussi à l'œuvre d'autres penseurs auxquels j'ai fait allusion jusqu'à présent, comme Fakhreddin Razi al-Ghazali, du côté de la théologie et du côté des sciences islamiques, et Ibn Rushd et Ibn Sina et Farabi du côté des sciences qu'on appelle rationnelles, c'est-à-dire la philosophie. À la prochaine fois.